Interview.
100 du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nous recevons aujourd'hui Baptiste François. Bonjour.
Bonjour.
La distillerie Au Baptiste.
Oui.
T'es basé à Valence.
Oui.
On a vu passer là en ce moment, tu es dans une, peut-être dans une période de communication qui nous a permis de voir passer que cette distillerie existait. Ça évidemment donne envie de se poser plusieurs questions. Alors d'abord la première, d'où viens-tu?
Moi j'ai un parcours un peu de... J'ai navigué plusieurs fois en France, je suis né en Dordogne, j'ai grandi en Limousin, j'ai fait 3 ans sur Paris et je suis arrivé en 2012 en Ardèche et maintenant je suis à Valence. Voilà. Donc je navigue un peu, j'aime bien bouger et tout ce qui est autour de la gastronomie me plaît et voilà.
Par exemple tes études au départ, elles sont en lien avec ça?
Non, pas du tout. Compte à gestion.
Ah ouais?
Pas du tout. Ça a permis de savoir gérer une entreprise, mais après, ça s'arrête là.
C'est déjà pas mal.
Non, et... c'est plutôt le hors de l'école, tout ce que j'ai appris au niveau associatif qui était plus intéressant pour moi, plus important que l'école en elle-même.
Mais alors, comment t'en viens à devenir un bouilleur de cru?
Donc, je suis arrivé en 2012 en Ardèche avec deux amis pour monter une malterie artisanale qui est Malter Eco. Voilà, qui est basé à Vernoux à l'heure actuelle, en Ardèche. Et début 2016, j'ai voulu continuer à travailler dans la filière bière, sans faire de la bière. Et à ce moment-là, en discutant avec énormément de brasseurs, je me suis rendu compte qu'ils jetaient beaucoup de litres de bière, entre 1000 et 2000 litres de bière par an par brasseur. Des bières qui ont des petits défauts pour eux, un défaut de goût, un défaut de mousse, un défaut de fermentation... Voilà, ou une bière qui est trop vieille, ou de la bière de courtoisie, c'est des bouteilles qu'on offre tout ça. Voilà. Donc ils ont plein de lots de bière voilà, qui jettent chaque année, et je leur ai dit, moi je veux bien la y récupérer. Donc j'ai commencé à réfléchir pour distiller de la bière artisanale en esprit de bière. Voilà, ça a été mon premier produit.
Tu parlais de lien avec la gastronomie, mais la bière, c'est quand même quelque chose de particulier. Pourquoi produire de la bière? Est-ce qu'il y avait aussi, je ne sais pas, comme beaucoup de brasseurs artisanales qu'on a parfois reçus à cette antenne, ont aussi toute une démarche agricole ou de proximité, de petites structures?
L'idée de base, c'est vraiment de valoriser des produits qui sont non commercialisables et de leur donner une deuxième, une troisième vie. Donc de la bière, du vin, des jus de fruits, voilà. Et de continuer le travail qui a été fait par l'agriculteur, par le premier transformateur. Mais voilà, c'est des matières vivantes, donc des fois, il y a des loupés. Donc au lieu de les jeter, s'il reste des...
C'est la valorisation du déchet, quoi, en fait.
J'aime pas le mot déchet parce que déchet c'est négatif, mais oui c'est une valorisation de rebut, oui de...
Non mais oui, du coup pas de déchets
À la sortie de la distillerie il y a beaucoup moins de déchets, oui. Voilà.
Alors donc on peut tout distiller, un produit déjà transformé lui-même est distillable.
Le but de la distillation, que ce soit pour l'alcool, les plantes, ou actuellement des fruits, ou actuellement on parle du pétrole ou tout ça, c'est aussi une distillation pour passer du pétrole à l'essence, au gasoil et compagnie. Le principe, c'est de séparer des liquides qui ne bouent pas à la même température. Moi, je me concentre sur l'alcool, l'alcool de bouche, et les molécules d'éthanol s'évaporent à 78 degrés, les molécules d'eau à 100 degrés. Donc le processus est relativement simple, hein. C'est en alambic en cuivre, on fait chauffer un jus où il y a de l'alcool dedans et on récupère les molécules d'éthanol pur à 70% au bout de distillation. Donc tout peut se distiller du moment où il y a de l'alcool initial. Donc de la bière, du vin naturel, des jus de fruits qui commencent à piquer et à passer... Là, actuellement, je distille du cidre. Et
vient d'où, du coup, de Bretagne?
Non, de la ferme bio Marjorie à Porte. Voilà, Ils pasteurisent des jus en vrac et il y a de temps en temps un lot qui part en fermentation parce qu'il y a un souci dans la poche, une prise d'air. Voilà, je sais pas. Voilà, donc le jus fermente, ça devient du cidre et moi je le récupère pour le distiller. Sinon, il aurait évacué en déchets. Ouais. Et j'ai même distillé deux fois 450 litres des crachoirs de vin naturel. Voilà. On a appelé ça embrasser des inconnus. Donc, sur un salon de vin naturel à Paris et à Lyon, les crachoirs de vin, il y a des molécules d'alcool dedans et on les a distillés et on en a fait deux fois une centaine de bouteilles. Voilà.
Tu pourrais nous détailler encore un peu plus cette notion de, à la fois de revalorisation, je le disais quand même, de quelque chose qui allait être jeté d'un déchet probablement, ou pour qu'il ne le devienne pas, c'est peut-être plutôt ça qu'on devrait dire, et ce côté local, voilà, la ferme de Marjorie, etc. Donc finalement, tu t'approvisionnes qu'en local?
Le plus loin que j'ai fait, c'est à Avignon pour du vin, mais voilà, c'est un pote. Après, l'idée, c'est de trouver d'autres vignerons qui travaillent autour de Valence. Il y a des très bons vignobles, des très bons vignerons en vin. Il me faut du vin naturel, donc du vin non soufré, parce que le soufre, derrière, il passe en distillation. Donc, il ne faut pas qu'il soit soufré. Et la bière, c'est pareil, c'est principalement Drôme Ardèche. J'ai un brasseur de l'Isère qui m'a fourni dernièrement, mais la grosse majorité des bières viennent de là. Et les vignerons, les brasseurs, oui, c'est entre 1000 et 2000 litres chacun. Donc derrière, là, devant la distillerie, j'ai une dizaine de palettes encore de bières à décapsuler et à distiller, ça me fait 2 mois de production, ces palettes-là de bière. Donc, il y a vraiment un gros, gros volume de bière à distiller. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce n'est pas des mauvais brasseurs qui me fournissent les bières, c'est vraiment des brasseurs qui font le choix de déclasser rapidement un lot pour ne pas le présenter aux clients. Voilà. Donc, c'est vraiment pour moi les meilleurs brasseurs du coin qui me fournissent le plus de bière parce qu'ils sont très exigeants sur les lots. Et il y a quelques bières qui
Donc en fait,
arrivent.
tu te retrouves avec des bières déjà des produits de bonne qualité finalement.
Il y en a
Déclassés, mais de bonne
quelques, il y
qualité.
en a quelques-unes, voilà, qui pourraient être encore vues comme ça, qui ne sont pas au niveau des bières du brasseur, mais sur des bières courantes, elles pourraient être encore commercialisées, où les défauts sont très subtils, où on sait que le défaut va arriver dans 2, 3 mois, mais ça ne sert à rien de les vendre quand même parce que voilà, c'est pas intéressant. Et le vin, c'est pareil. Et le jus de pomme, quand il est arrivé, on sentait la petite piqûre de fermentation qui arrivait. Mais c'était du très bon jus de pomme à la base. C'est avec des bons produits, de toute manière, qu'on fait une bonne distillation.
C'est ce que j'allais te demander finalement. Si les bières étaient vraiment complètement ratées ou le jus complètement piqué, est-ce que tu arriverais quand même à en faire un produit
Il faudrait le laisser plus longtemps derrière en vieillissement, en fût, en voilà. Faudrait le retravailler plus longtemps derrière pour retrouver un bon alcool ou le distiller 3 fois. Voilà. Mais quand on distille des fruits, notamment chez un bouilleur ambulant, il faut vraiment que ce soit des fruits bien mûrs, mais jamais moisis, jamais pourris. Voilà, parce que c'est des faux goûts qui vont passer derrière dans l'eau de vie. Et sur les bières, les vins, les fruits que je distille, c'est pareil, c'est une bonne matière première, voilà, pour faire une bonne gnole naturelle derrière.
Comment t'y es venu? C'est une passion, l'alcool blanc, l'alcool fort,
Non, non, mais
l'agnole?
je me suis passionné sur le malt depuis 2011, le
Donc avec
malt
le Malteur Eco.
avec Malteur Eco, avec le et du coup j'ai découvert le monde de la bière. En même temps, et
Et du
j'ai.
whisky peut-être? Le
Non,
malt, non, pas forcément.
pas du tout. Et vraiment, les spiritueux, je découvre ça que depuis 2 ans et demi, depuis que j'ai l'idée de la distillerie. Mais avant, je.
Oui, donc tu t'es lancé dans la distillerie sans avoir.
J'ai des fibres normandes, donc il y avait toujours une bouteille de Calva chez le grand-père, une bouteille de Prune chez la grand-mère. Voilà. Mais. Non, j'ai pas de culture. J'ai lancé un rhum, mais de ma vie, j'ai bu 3 ou 4 rhums avant. Voilà. Donc,
C'est excellent. Enfin, moi, je trouve ça un peu incroyable quand même. Du coup, en autodidacte, sans même avoir vraiment une culture de ces alcools-là, tu t'en lances dans plein de produits différents. Hein. Donc, il y a du rhum, effectivement. Tu parlais de l'esprit de bière, il y en a d'autres encore.
Après, il y a 2 ans et demi, je connaissais rien. Je me suis formé, je suis allé rencontrer d'autres distillateurs, notamment l'atelier du Bouilleur en fine fougère à Béziers. J'en reparlerai tout à l'heure pour l'événement qu'on fait en début de semaine à Paris, là. Voilà, et quelques autres, Mathieu Frécon, qui a une distillerie en Suisse, Étienne, qui a une distillerie qui était dans l'Ain, maintenant il est parti en Bretagne. Voilà, il y a quelques personnes comme ça qui m'ont donné l'envie, le goût et appris à distiller. Je suis allé me former 1 dizaine de jours à Cognac, au Centre français des spiritueux, pour découvrir voilà, ce qu'était la distillation du cognac, donc la même technique de distillation que j'utilise, et découvrir aussi des spiritueux. Voilà. Et je continue d'apprendre, et c'est ce qui m'éclate dans le métier, c'est que j'en apprends tous les jours, et j'en connais beaucoup, mais j'ai l'impression d'être un ignorant dans la distillation, et de maîtriser au final que très très peu d'éléments
Tu
de
balbuties,
voilà.
quoi.
Ouais.
Et pourtant, tu prends des médailles, quoi.
J'ai quelques médailles, voilà, ça permet de valoriser, d'avoir un regard extérieur sur le produit. Et j'ai des produits qui sont vraiment très très bons. Bah, ils me plaisent, mais ils plaisent aussi vraiment en extérieur. Et ils sont faits de manière la plus simple possible. Il y a 2 distillations, un affinage, 3 à 6 mois actuellement en fût. Et voilà, c'est point barre.
Alors,
Et je commence à sortir des alcools à 70 degrés. Et là, il y a une bouteille de rhum en bouteille de fût à 70 degrés. Tu disais que tu n'aimais pas les alcools forts parce
ah,
que
ça
ça
c'est
piquait
hors
trop tout
antenne,
ça,
ouais.
mais
Celui-là, il pique pas.
celui-là, c'est le plus doux malgré ces degrés.
Bon, on est normalement obligé de le dire, mais la loi E20, tout ça, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on parle de distillation et donc d'alcool fort avec Baptiste. T'as distillé, tu l'as appelé au Baptiste. Il y a une petite anecdote, puisqu'on était dans le hors antenne, alors dis-le à l'antenne maintenant. Tu disais qu'il y avait quelque chose quand même pour expliquer à ce nom, au-delà du fait que tu t'appelles Baptiste.
Il y a plusieurs parties dans le nom. Baptiste est un prénom qui est lié à la purification, voilà, le baptême, tout ça. J'ai pas de, je suis pas chrétien non
Oui,
plus,
c'est comme
voilà, mais
ça, voilà.
c'est comme ça, c'est le prénom et je trouvais intéressant de le mettre et de le valoriser. Il est assez atypique aussi. C'est mon nom de famille est un peu plus commun. Voilà, et je trouve le mot intéressant pour des produits simples. L'alcool,
Puis t'as mis ce
c'est
petit O là qui
voilà
rappelle le...
le O qui a des notes irlandaises, mais
Voilà.
c'est j'ai pas du tout de racines anglo-saxonnes. Mon anglais est nul. Mais par contre, voilà, c'est la contraction de off, le O apostrophe, et ça fait rappel aussi à l'eau de vie, l'eau de Baptiste, voilà.
Et l'iconographie avec le lion, alors?
Je suis du mois d'août.
Ah,
Voilà.
bon, tout
Tout
s'explique.
simplement. Après, juste sur la question de la loi E20, oui, si l'alcool est à consommer avec modération, tous les alcools, que ce soit le vin, la bière, les spiritueux, si c'est un bon alcool, bien fait, sans pesticides, bio, sans soufre derrière pour les vins, et bu à petite dose, on sait que ça peut être un médicament à grosse dose, que c'est dangereux, voilà. Et vraiment avec des très bons alcools, là, depuis que je découvre le milieu des spiritueux, ou des vins naturels, quand je distille les crachoirs ou d'autres vins naturels, c'est des vins qui, avant qu'ils fassent des dégâts sur la santé, voilà.
Oui,
Mais bon.
en fait, si tu devais, par exemple, on va pas faire de la thérapeutique, hein, surtout pas, mais par exemple, la consommation classique, enfin, là, on parle de gens qui se bourraient la gueule, hein, clairement, avec un alcool fort ou un autre, peu importe, finalement, le résultat est le même. Là, ici, tu parlais de voilà d'être dans quelque chose de plus médicamenteux. Hein. Bien sûr, nous ne sommes pas des médecins, ni toi, ni moi.
Non, en fait, il faut le voir par rapport à la molécule, au nombre de molécules d'alcool qu'on ingère, et il n'est pas question de boire 25 centilitres de gnôle comme 25 centilitres de bière. Quand on boit de l'eau de vie, c'est 1 centilitre ou 2, ça correspond à un verre de bière. D'où aussi accompagner les consommateurs à le travailler en cocktail. Ça permet Voilà, de faire des boissons qui durent un peu plus longtemps à boire dans un verre de mojito, ça fait 25 centilitres. Ça, voilà, ça permet simplement de diluer un peu l'alcool. Et après, voilà, c'est le grand débat sur la taxe, les dangers de l'alcool, mais mes molécules d'alcool de spiritueux sont taxées 70 fois plus que les molécules de vin. Non, c'est elles qui sont plutôt taxées 70 fois moins que les miennes. C'est pas trop taxé pour moi, j'ai l'impression, parce que c'est quand même dangereux. Mais voilà, il y a une inéquité, il y a des traditions, des lobbies dans le milieu viticole, brassicole, qui fait que la molécule d'alcool est dangereuse pour tout le monde, quel que soit le nombre, mais elle n'est pas du tout taxée de la même manière, quel que soit le produit. Et ça, on en...
Écoute, non, mais ça tombe bien que tu parles de ces taxes parce que c'était aussi une question que je voulais poser. On a vu fermer un certain nombre de distilleries un peu partout, les droits se perdre, y compris pour les agriculteurs. Les distilleries ambulantes dont tu parlais qui ont eu beaucoup de problèmes, et toi, il y a 2 ans et demi, tu arrives à en ouvrir une, à sortir une gamme de produits. Quelle est la loi là-dessus? On peut devenir bouilleur de cru, il y a une déclaration précise, tu es à la douane, tout ça?
Oui, bah, c'est relativement simple entre guillemets. Après, ça dépend du douanier, clairement. J'ai des collègues, des confrères dans d'autres départements où c'est très compliqué. Voilà, il y a des douaniers qui ne sont pas du tout à l'écoute ou qui sont vraiment sur des interprétations de lois, des lois qui sont très anciennes avec des. Voilà, il y a plein de choses à faire évoluer de ce côté-là. Mais là, dans la Drôme, il y a un service des douanes qui est vraiment très, très intéressant, avec qui il faut être en lien tout le temps en démarrant la distillerie. Et donc, il y a un dossier à faire pour déclarer son activité et un dossier à faire pour chaque mouvement d'alambic. Voilà,
Donc ces mouvements,
c'était presque mon administration la plus cool pour l'instant, voilà, avec les douanes
ils t'aident même ou dire à rester comme ça en conformité plus ou moins?
Bah, ils sont compréhensifs, ils sont pas, voilà, si j'ai un problème
C'est presque une
technique, ou...
tutelle quoi en fait.
Oui, c'est leur base, la base des administrations. Maintenant, c'est beaucoup du contrôle, mais initialement, c'est vraiment du conseil aussi. Et c'est ce que j'aime bien réexpliquer aux collègues distillateurs ou voilà, quand j'échange avec les douanes, c'est que plus ils m'aideront à travailler facilement, plus je pourrai produire d'alcool, plus je rapporterai des taxes à l'État. Donc, on a tout intérêt de s'aider à travailler. Et si on est dans un rapport bête et méchant sur lesquels ils m'empêchent de produire de l'alcool, ça va être nul pour moi, mais pour eux aussi. Donc voilà, il faut trouver un interlocuteur avec qui on a envie de travailler et sur lequel on. Voilà, il est. Voilà. Et après, ça dépend des personnes et je sais qu'il y a des collègues pour qui c'est très compliqué. Ouais.
Il y a beaucoup de distilleries dans la Drôme?
Dans la Drôme, il y en a quelques-unes. Il y en a une qui a fermé de fruits dans le nord. Il y a pas longtemps. Il y a la distillerie du Vercors à Saint-Jean-en-Royans, voilà, dans le pied du Vercors. Dans le sud de la Drôme, je crois qu'il y a quelques distilleries de fruits ou d'ambulants. Voilà, il y a beaucoup d'activités de distillerie de plantes, par contre. Sur mon approche de distillation, on n'est vraiment pas nombreux au niveau national. Voilà.
Et oui, et c'était la dernière question. Même au
Ouais.
niveau national, t'es
Bah, c'est
sinon?
50 ou 70
Ah ouais.
distilleries de whisky. Dans le cognac, il y a plein de distilleries. En Lorraine, il y a plein de distilleries de prunes, en Alsace aussi. Mais des approches comme nous, sur des petites quantités, sur une multiplicité de produits, donc pas spécialisé vin, pas spécialisé
Tel fruit,
calva ou tout
ouais.
ça, c'est vraiment très très rare. On est une petite vingtaine, je pense, actuellement. Et on s'est monté un syndicat
Du coup, ah
à
ouais.
la Pentecôte l'an dernier, justement pour mutualiser les liens, pour échanger sur nos problèmes, justement, avec les douanes et comment les gens ont trouvé des solutions, voilà, pour se sentir un peu moins seul dans le métier.
La distillerie au Baptiste, on parle un peu de tes produits alors.
Ouais. Oui, je suis là pour ça aussi.
Ah bah oui, carrément. Maintenant, c'est le moment promo. Alors donc, on te retrouve à Valence, l'adresse précisément.
47 rue Léon Gaumont, c'est en zone Brifo.
Voilà,
Donc,
et à cet endroit, on peut acheter.
on peut acheter à la distillerie et après, j'ai envie de m'appuyer aussi sur les cavistes indépendants pour revendre mes produits. Donc,
Donc tu as plusieurs points
voilà,
de vente
j'ai
là?
plusieurs points de vente plutôt sur Valence. Là, dans la vallée de la Drôme, j'ai pas.
Mais il va falloir, quand
Voilà,
est-ce que tu débarques et dis...
dès qu'il y a un caviste qui veut faire le relais, parce que voilà. Mais je suis preneur de. Voilà,
Bon, bah alors à ceux
de
qui
lieu de
nous
vente, voilà.
écoutent. Alors les produits, donc on a déjà parlé de l'esprit de bière, tu disais que c'était le premier.
Ouais.
Alors...
Donc l'esprit de bière, c'est donc j'ai trois alambics, un de 50 litres, un de 300 litres et un de 500 litres, voilà, en matériel. Donc c'est vraiment des petits volumes. Dans le cognacqué, c'est des alambics de 2000 litres, voilà, pour en rendre compte. Donc la bière est distillée deux fois. Elle sort de l'alambic à 70 degrés et après il y a une petite réduction à l'eau à 40 degrés. Voilà. C'est un alcool blanc qui a le nez du houblon, du malt. Et vraiment une touche d'eau-de-vie de fruits, poire, prune, mirabelle.
Donc on peut ressentir, par exemple, si c'était une IPA, eh ben il serait comme ça, beaucoup plus houblonné que l'autre
Non,
ou...
non, non, il y a des goûts qui restent dans l'alambic. Typiquement l'amertume, c'est une molécule qui est trop lourde, qui ne passe pas
Ah,
en
ah ouais.
distillation. Donc là, l'eau de vie de bière n'est pas du tout amère. C'est un peu déstabilisant, mais voilà. Il y a des côtés agrumes qui passent, mais pas sur celle-là. Là, et pour l'instant, c'est des mélanges de bières. Donc, c'est un produit unique. Il y a plein de bières avec plein de défauts différents qui font une gueule. Voilà. Et le lot suivant aura un petit goût qui pourra varier. Mais
On va faire dans la chronologie. Après l'esprit de bière, qu'est-ce que tu as produit?
J'ai fait le rhum. Donc, le rhum est. Pour le coup, beaucoup moins local. La mélasse de canne à sucre vient de Thaïlande en bio. Je ne l'ai pas importée pour me faire plaisir. C'est que j'ai trouvé de la mélasse. Donc, la mélasse est le sous-produit de la production de sucre de canne. Donc, c'est encore un rebut. Voilà. Et donc, j'ai trouvé un importateur qui l'utilise en France en alimentation animale. Voilà. Pour faire de la pétanque dans l'alimentation animale. Et du coup, bah, je l'ai pris et j'ai mis en fermentation et en distillation cette mélasse.
Donc lui pareil, il était dans le retraitement d'un restant
Bah,
pour le cadre de son activité.
oui, c'est un sous-produit de l'activité sucrière qui était déjà en France.
Donc
Je
tu t'associes à
j'aurais
son
pas, voilà,
importation, quoi.
j'ai
Ah ouais,
pas
ouais.
fait un choix de sourcing particulier de
Excellent.
type de canne ou de mélasse. Voilà.
Donc, mais en ceci dit, du rhum de Thaïlande produit en France, ça au moins, c'est la particularité d'être
Bah,
assez rare.
en France, la France est un gros producteur de rhum, mais
Mais
dans les dom
dans
tom,
ces dom-toms,
voilà, et beaucoup de rhum agricole, voilà, mais le rhum agricole, c'est du pur jus de canne qui ne peut pas être commercialisé et transporté, il faut le transformer en alcool directement. Donc,
Donc là, deux rhums quand même. Un blanc, bien sûr, et puis
le blanc, et après, je le fais
trois même.
affiner 3 mois en fût d'acacia sur des fûts de 50 litres d'acacia.
Qui avait une vie avant?
Non, c'est tout en fût neuf.
Ouais.
Pour l'instant, j'ai fait le choix d'acheter que des fûts neufs et je me fais des fûts, voilà, qui commencent à avoir une histoire. Ce fût de rhum, là maintenant qu'il a passé 1 an et demi avec du rhum dedans, ben je commence à l'utiliser pour faire des finishes sur d'autres produits. Donc j'ai choisi l'acacia parce que c'est un bois qui apporte une petite sucrosité, un petit côté vanillé au produit. Qui est un bois très, très doux en fait en aromatique. Les vignerons disent facile. En fait, quand on met du vin dedans, ça fait un vin très, très doux, très sucré, qui n'est pas du tout comme le chêne, qui est un peu
Voilà.
plus tannique et sec.
Boisé,
Voilà.
même on retrouve
Ouais,
cette
ouais,
espèce
voilà.
d'effet bois.
Et donc là, j'ai voulu le mettre sur le rhum parce que le rhum est un alcool qui est maintenant très, très industrialisé, très coloré, aromatisé, glycériné. Sucré, voilà,
Ouais,
pour
c'est bon.
donner de la couleur,
Ouais.
couper le côté feu. Quand on boit des rhums à 50 degrés et qu'ils se boivent tout seuls, c'est qu'il y a au moins du sucre, voire de la glycérine dedans. Moi, les produits, là, il y a rien. Il y a juste la distillation, l'alcool de la distillation et le bois, s'il y a du passage en fût, mais pour point, il y a pas d'ajout derrière.
Est-ce que c'est parce que la méthode est plus douce et justement tu utilises ce type de fût-là par opposition à l'industriel que tu disais? Pourquoi est-ce qu'ils font un produit qui finalement brûle la gueule parce qu'il est mal fait?
Les alambics jouent beaucoup dessus. Les rhums industriels de type vodka, gin. Il faudra parler du manifeste des gnolls naturels à la fin où j'expliquerai un peu tout ça. Où le rhum dans les dom-toms, c'est des alambics à colonne, donc qui font des alcools un peu plus secs et en une seule passe, ils arrivent à faire des alcools. Et c'est un peu le même processus que les alambics ambulants. Voilà les vieux alambics qui faisaient des gnolls, qu'il fallait laisser au moins 6 mois, 1 an pour qu'elles commencent à être buvables. Moi, là, l'alambic que j'ai, c'est en double distillation. Et c'est des distillations qui font 9 heures la première, 10-12 heures la seconde. Donc le processus de production de l'alcool est vraiment lent. Et ça permet d'avoir une douceur. En seconde distillation, l'eau de vie à 70, elle pique un peu au nez, mais en bouche, c'est du petit lait voilà, à 70 degrés. Donc c'est vraiment intéressant et... C'est pour ça que j'ai sorti aussi un rhum en brut de fût à 70 degrés, donc qui a aussi 3 mois de fût d'acacia. Parce que là, c'est vraiment la matière première brute qui permet derrière à tout cuistot, barman, même chez soi, de retravailler derrière en cocktail, en pâtisserie, en cuisine. Voilà.
Donc c'est cette version rhum blanc.
C'est les deux rhums, le rhum blanc et le rhum en bout de fût. C'est des rhums qui sont utilisés par exemple par Frigoulette à Beaufort-sur-Gervanne, qui fait des truffes au rhum avec mon rhum maintenant.
Ouais. Et le rhum humble, du coup, là, il y a cette petite réduction.
Une petite réduction à 45. Voilà.
Après le rhum.
C'est cette bouteille, donc c'est de l'esprit de Malte.
Donc tu as appelé la griffe.
Ouais, là c'est vraiment une petite marque indépendante, vraiment sur des produits signatures sur lesquels j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce que j'ai envie de faire en cuistot de l'alambic, voilà, entre guillemets.
Donc ça, c'est des produits qui sont plus transformés encore que juste la distillation.
Non, pas tout à fait, mais c'est vraiment des produits uniques en termes de nombre de bouteilles ou de...
Ah oui, parfois c'est des séries limitées ou même que tu es le seul à produire dans les vins, c'est ça? Dans les vins distillateurs
notamment. Donc là, là, l'esprit de Malte, c'est, là j'en ai fait que 200 bouteilles, je ne vais pas en refaire d'autres. Donc c'est une base de pure malte et non de la bière. Donc j'ai un fût de whisky qui sortira fin août 2020 et j'ai ce fût-là qui est sorti fin août qui a seulement 6 mois d'âge. Donc...
Je sens en même temps à l'antenne. Ouais. Hein. Celui-là, il est très dégage vraiment fort.
Donc c'est une base d'orge et de seigle, distillé 2 fois, 6 mois de fût de chêne. Donc il a des notes vraiment cacao, vanille.
Ouais.
Moi, ça me plaît pas trop, mais il y a un goût de chocolat blanc, limite Kinder là qui reste.
Ouais, peut-être bien.
Voilà, mais bon, ça fait partie des choses qui sortent et en fonction des températures, plus ou moins froid ou chaud, voilà, ça, les aromatiques changent. Donc là, c'est vraiment de l'esprit de malt. Et là, j'ai fait le choix de distiller qu'un jus de malt brassé et distillé brassé pour l'occasion pour ça. Et en fait, il y a tellement de bière à distiller. Et la bière, au bout de 6 mois, là, j'ai fait une petite série avec la brasserie de la Pleine Lune. Au bout de 6 mois de fût de chêne, ça ressemble énormément à whisky. Mais je ne pourrais jamais l'appeler whisky parce que c'est de la bière. Il y a eu du houblon. Voilà, mais tant pis. Tant pis, je préfère revaloriser une matière première qui serait jeté que de distiller juste du pur malt pour avoir l'appellation whisky dans 3 ans. Voilà. Donc j'aurai qu'un seul fût de whisky dans 3 ans et point. Voilà.
Et t'en referas du whisky du coup?
Non, pas
forcément.
Ouais. Non, je m'en fous. Ouais,
ouais.
J'aurai qu'un seul fût de whisky. Le reste, il y aura de l'esprit de malt qui aura vieilli 6 mois, 1 an, 3 ans, peut-être plus, qui aura le goût,
la
couleur du whisky, mais dont je ne pourrais jamais appeler whisky parce qu'à la base, c'est une bière et pas juste un malt. Il y a le petit houblon qui
en fait. Il faudra lui inventer un autre nom alors.
Voilà. Une autre bouteille que j'ai apportée, donc c'est la bouteille que j'appelle Carriops. C-A-R-Y-O-P-S-E. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien le Scrabble. Voilà, c'est un mot
alors, qui
rapporte des points. Caryophe, c'est le nom botanique du fruit de la graminée, donc d'un grain. Et donc, le grain, normalement, c'est que quand le grain il est mûr, mais toute la phase de maturation du grain autour de l'épi, c'est ça s'appelle un caryopse.
Voilà.
Donc le nom est original, donc c'est une boisson à base de grain. Donc là, j'ai pris la recette du Pinot des Charentes, du Pommeau en Normandie, des floques de Gascogne, des mistels, en fait. Donc la base, c'est de muter un jus de fruits par l'alcool distillé de fruits. Le Pinot en Charente, c'est du jus de raisin muté au cognac, à l'alcool distillé de vin. Bah là, c'est du jus de bière, de stout, une bière bien noire, bien...
Déjà bien puissante.
Bien puissante, non houblonnée, vraiment que le malt. Et je l'ai muté avec l'alcool distillé de bière. Donc ça coupe la fermentation, ça monte le spiritueux à 25 degrés d'alcool. Et la bouteille est noire et au niveau du...
Le jus, ouais.
Au niveau du nez, on est vraiment sur des notes de... De café, cacao, de stout, voilà, pour ceux qui aiment les bières bien fortes. Il n'y a pas du tout de l'amertume des bières, et il n'y a pas le côté effervescent des bières, pour ceux qui n'aimeraient pas ça. C'est encore une création, là c'est mon troisième lot, j'en ai encore un autre en cours. Voilà. J'ai une bonne intuition, j'ai envie de faire ce produit-là. Mais voilà.
Tu cherches encore.
Je cherche encore un peu à l'améliorer.
Et on a beaucoup parlé autour de produits déjà transformés de type jus de fruits, etc. Ça sort pas dans ce que tu nous as présenté finalement. Tu fais pas une poire, une pomme.
La pomme, j'ai commencé à la distiller mardi là.
Voilà. C'est un projet.
Ce sera pour dans 3 ou 6 mois. Je vais pas forcément la vendre en alcool blanc. L'idée, c'est plutôt de le faire vieillir un petit peu. Donc, ça sera un calva d'ici. Voilà. Étant chauve, je vais l'appeler calvici.
Voilà. Ah, c'est pas mal.
Voilà. Non, j'ai mis une publication sur Facebook. Il faut 200 likes pour que... voilà. Je pense que ça sera ce jeu de mots-là. Calva d'ici, voilà.
Les prochains projets, rapidement.
Là, pour l'instant, j'ai pas de. L'idée, c'est vraiment de travailler du vin. Là, j'en ai fait déjà un peu cet été. Il y a une fine de Côte du Rhône qui sort, donc en mars. Voilà, et une autre. J'ai envie de garder le fût au moins un an. Mais j'aimerais travailler un peu plus de vin naturel. Voilà. Pour vraiment valoriser des... En plus, il y a de superbes AOC locales là, autour de Valence. Voilà. S'il y a un vigneron de clairette là, qui a 1000 litres de clairette à distiller, ça pourrait être fait... voilà. Je ne sais pas s'il y en a en clairette nature, mais voilà. Ça fait partie des idées...
J'en connais en biodynamie.
Ouais. Je pense qu'on pourrait s'entendre très, très facilement, oui. Donc, l'idée, c'est de proposer ça. Donc, moi, soit je distille à mon compte, soit je fais aussi un peu de prestation de service. Donc, voilà, je peux faire les bouteilles. Voilà. Je ne suis pas encore équipé pour distiller sous le régime de bouilleur ambulant, mais ça fait partie des développements d'ici un an ou deux maximum, de pouvoir distiller des fruits, vos prunes, vos poires, vos raisins personnels, ça je pourrais le distiller. J'ai tous les papiers, mais j'ai pas le bon alambic encore pour le faire. Donc voilà. Ça, et après le gros projet du début de semaine prochaine, c'est de lancer à Paris un manifeste des gnolls naturels avec, avec deux trois collègues. À Paris, il y en a deux autres, mais voilà, l'idée, c'est de mobiliser d'autres distillateurs derrière. Un peu ce qui se fait sur les vins naturels, donc de dire, on prend du jus de raisin, on n'y met rien dans le champ, on n'y ajoute absolument rien dans le chai, dans le fût, dans la fermentation, dans le vieillissement.
Est-ce que
et
ça
on
va
fait
partir...
travailler le raisin de manière naturelle. Et là, c'est les propres levures dessus. Et l'idée, c'est de continuer ça en distillation, de dire, voilà, on prend des produits au minimum bio, au maximum sans aucun intrant derrière, et on les travaille de la manière la plus simple possible et sans aucun ajout derrière. Et pour se démarquer de l'ensemble des spiritueux actuellement qui ont le pignon sur rue et qui sont tous colorés, industrialisés, il faut savoir que dans le règlement européen, tout ce qui est cognac, whisky, calva, tout ça, ils ont le droit de colorer les spiritueux. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais tout le monde a le droit de colorer les spiritueux. Tout ce qui est vodka, gin, bitter, gentiane, guignolé, voilà, sont systématiquement faits avec des alcools industriels à 96 degrés, qu'ils soient conventionnels ou bio, mais c'est des alcools qui sont raffinés. Et après, qui peuvent être retravaillés en distillation artisanale, mais il n'y a aucune marque de gin ou de vodka qui peut être artisanale et qui peut maîtriser toute sa production et s'appeler gin et vodka. Voilà. Donc on est en conflit avec les fraudes, quelques-uns d'entre nous, qui, voilà, y a
Qui
des.
tentons de
Qui,
faire ce
voilà.
produit sans.
Donc on joue sur les mots ou tout
Ouais.
ça. Moi, j'en fais. Plus, j'en ai fait un petit peu, mais j'en fais plus justement pour provoquer le débat avec le client. Il y en a d'autres collègues qui ont fait le choix de jouer sur les mots et qui font une boisson distillée à base de genièvre et d'autres plantes. Ils l'appellent presque gin, mais voilà. Et ils peuvent pas l'appeler gin parce que c'est leur propre alcool et pas de l'alcool distillé. Donc pour remettre ça sur la place publique et expliquer aux consommateurs qui découvrent avec passion les vins naturels, les bières bio, les bières locales, et en même temps
Il manque la dernière étape, quoi.
et en même temps qu'ils boivent des spiritueux dont on ne sait absolument pas comment c'est fait.
Alors, ce manifeste, vous l'avez écrit, ça représente un certain nombre de pages, du
Ouais,
coup?
ouais. Il y a un site internet qui s'appelle gnolnaturel au singulier.eu. Il y a la version anglaise et allemande parce qu'on a une dédiée distillatrice qui est allemande et qui. Voilà. L'idée, c'est
Et
de
ça part
faire. Voilà.
d'ici, ça part de France, cette histoire.
Ouais, avec au centre de l'histoire l'atelier du bouilleur, le distillateur David Mimoun d'alcool vivant. Là, c'est nous trois qui sommes à Paris, mais après, on n'est pas les trois seuls à le faire. Il y en a plein d'autres en France qui le font. Et l'idée, c'est de mobiliser un peu et de faire remonter ceux qui font du produit le plus simplement possible et le meilleur possible.
Qu'est-ce qu'il y aurait comme finalité? Parce qu'évidemment, bon, que le consommateur soit lui-même informé, c'est bien. Là, tu disais qu'il y avait déjà un syndicat, vous étiez une vingtaine. Est-ce que, il pourrait y avoir du coup une marque, enfin quelque chose, une signification qui ferait qu'on sache
On n'en est pas arrivé là. On a tout
l'AOC des gnôles
Voilà, je pense que ça sera le dernier truc qu'on fera
naturel.
d'avoir un label, une
Ouais.
marque contraignante. Voilà, on a déjà
Très bien.
énormément de. Je parlais des douanes. Pour moi, c'est assez cool, mais c'est quand même du temps de travail, d'administratif et tout ça. Il y a plein, plein de règlements, de labels, de certificats. Voilà, de contrôle X ou Y, et on n'a pas envie de se rajouter ça. On est des sociétés où on est un ou deux à bosser dedans. Voilà, donc on est tous pareils. Et l'idée, c'est d'être, vu qu'il n'y a pas de label, d'être super transparent. Donc si demain vous débarquez à l'improviste à la distillerie, peut-être que j'aurai pas trop le temps de vous accueillir, mais vous pourrez voir dans tous les recoins de la distillerie comment je travaille. Voilà, je suis transparent sur l'ensemble des productions. J'ai pas envie ni de me mentir ni de mentir aux clients. Et voilà, on voit le big de Mélasse, mais il y a. Voilà.
C'est vrai ça, on peut venir t'embêter pendant que tu travailles?
Ouais,
Pour
bah,
regarder?
après, c'est mieux de passer un coup de fil avant parce que je n'y suis pas tous les jours et H24. Mais si vous voulez venir passer une demi-heure, une heure pour visiter, c'est vraiment ouvert. Ouais. Et ça me fait plaisir de discuter d'eau de vie, voilà, et de toute l'activité et de faire goûter mes produits.
T'as envie de ce travail?
Pas encore.
Bon.
Pas encore.
C'est
J'ai
l'idée.
besoin d'en vivre très rapidement, mais pas encore. Non, c'est compliqué. C'est
Alors, qu'est-ce qui est
compliqué
compliqué maintenant?
J'ai l'impression d'avoir dit que c'était très simple de distiller, c'est le cas,
ça, mais de faire des bons produits aussi.
Il y a un coût de financement du stock qui est super important. Et après,
c'est-à-dire le fait de voilà d'avoir les bouteilles, de les stocker pendant 3 mois.
Quand je vends une bouteille, il faut que j'en stocke une en face, donc il faut que mes bouteilles que je vends financent le stock. Derrière, donc
finalement, tu as 3 petits alambics et un énorme entrepôt, quoi, c'est ça ? Avec plein de fûts.
Pas encore un énorme entrepôt, j'aimerais bien, mais.
C'est ça qu'il faudrait faire pour pouvoir en vivre, en fait.
Pour l'instant, mon alcool le plus vieux, il a 6 mois d'âge, voilà. Et j'aimerais bien en faire du 1 an, du 2 ans, du 3 ans, dans 1, 2, 3 ans. Et pour l'instant, pour les 2 ans de la distillerie l'été prochain, j'aurai au mieux du 9 mois d'âge à sortir. Voilà. Donc, vu que c'est un processus vraiment à long terme, voilà, il faut prendre le temps de ça.
Faire tu stockes pendant 10 ans avant d'être sur quelque chose de...
C'est ça.
Ça, c'est rude.
Et après, c'est un produit qui est... voilà, il y a énormément de taxes sur l'alcool. Je le savais en démarrant, hein, je ne critique pas. Il est faux.
Du coup, c'est un produit que tu es obligé de vendre cher, c'est ça que tu veux dire.
Si toutes les bières et les vins étaient taxés pareil, ça ferait 2000 milliards d'euros par an en plus pour l'État. C'est un truc juste impossible à imaginer. Et grosso modo, c'est comme si j'avais une TVA à 30-35% sur mes produits, selon les produits. Donc forcément, c'est des bouteilles. Mes autres vignes blanches, je les vends à 30 euros. Après, ça va jusqu'à 70 euros les plus... Voilà. Elles sont chères, mais après, quand on compare avec les autres produits de cette gamme-là, j'ai aussi envie d'être accessible pour... j'ai toujours été au SMIC pour pouvoir que des gens comme moi puissent acheter une bonne bouteille. Voilà. Après, c'est les modes de consommation, c'est des choix de priorité de où on met l'argent. Voilà.
Et tu commences à être connu là, enfin je veux dire, ces produits se vendent au-delà du fait qu'il faudrait les faire vieillir plus longtemps, le stock, etc. Est-ce que voilà, ça fonctionne ?
Je commence à faire ma marque, à faire ma renommée dans le milieu. Hein. J'ai été plusieurs fois reconnu. Le Rhum Humble, il a été médaillé à Madrid au Congrès international du Rhum. Donc c'est un regroupement de rhumeries, voilà. Il y a des choses qui avancent, mais pas assez rapidement pour le banquier, je pense. Voilà, et j'ai des demandes. Là, hier, il y a une demande d'exporter en Chine. Ouais, je pense que les volumes qu'ils me demandent et toute la paperasserie, il faudrait que je fasse 10 fois plus pour être pour pouvoir fournir un premier lot qui puisse être... voilà. Après, des tables renommées, voilà, il y a Flaveur à Valence qui a commencé à mettre mes produits. Ça ne devrait pas tarder chez d'autres restos gastro du coin, les cavistes. Voilà, c'est des très bons produits et j'essaye de jouer sur des produits à la fois accessibles et à la fois... et surtout pas renier la qualité pour qu'ils soient accessibles. Et d'autres où je m'éclate et c'est en plus petite série, c'est des bouteilles... j'aime pas le terme de luxe, mais ou premium, ou voilà, mais ça les vaut derrière, en fait. Voilà.
C'est la deuxième fois que tu en parles de ces cavistes. Alors si localement, hein, vous sentez... l'envie, en tout cas, d'accueillir les produits au Baptiste, eh bien, pourquoi pas. Je connais également quelques bars au café associatif qui ne devraient pas s'en priver, ici en local. Rappelle-nous donc la date de cet événement à Paris, là, quand même, au cas où.
Donc, hein. Si quelqu'un a des potes parisiens, donc le site, c'est gnolnaturel.eu, au singulier. C'est lundi soir, au lieu du vin à Paris, à 18h, lundi 3.
Décembre.
Et le 4, cave Saint-Martin à 17h, cave du Panthéon à 19h. Voilà, on sera au moins 3 à faire déguster nos spiritueux. Voilà. Et après, si vous voulez faire un retour et une dégustation sur Valence un peu plus tard, là, avant les fêtes, je suis ouvert normalement du mercredi au samedi. Voilà.
Ouvert du mercredi au samedi, rappelle-nous encore ton adresse et puis toi aussi, tu as un site internet.
47 rue Léon Gaumont et le site internet, c'est aubaptiste.com, tout attaché. Voilà.
On a oublié quelque chose ?
À consommer avec modération et avec de bons amis. Jamais seul.
Merci Baptiste François pour cette distillerie Aubaptiste, la présentation en tout cas de de ce nouveau produit. Et donc, on veut bien suivre ton aventure plus tard. On peut se donner rendez-vous quand tu as commencé à avoir des trucs bien plus vieux, genre 3-4 ans en fût, et voir où t'en es. Ça va être
avec
cool.
Plaisir, avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Interview. Ok, le bird. L'interview du jour.